en restant vert.
Bienvenue sur Green FM, la radio verte en compagnie de Lilian.
Ainsi que Chloé qui va rapidement vous présenter la COP21.
La COP21 se déroule à Paris depuis 15 jours en présence de tous les pays du monde.
Elle a pour but de maîtriser le réchauffement climatique à 2 degrés Celsius avant la fin du siècle.
Mais quels sont alors les enjeux du réchauffement climatique en Aquitaine?
Nos différents reporters ont tenté d'y répondre.
Les risques naturels sont-ils plus importants en Aquitaine?
Quelles sont les causes, les conséquences et les solutions en Aquitaine? La cause est le réchauffement climatique. Pour répondre à cette cause, Sergio Martin et Aurélien, au reportage.
Le rapport du GIEC montre que la température moyenne entre 1980 et 2012 a augmenté de 0,85 degrés. En Aquitaine, l'augmentation serait de 6 degrés pour la fin du XXIe siècle. Le réchauffement climatique fait-il peur aux jeunes?
Oui. Pensez-vous qu'il y a un réchauffement climatique?
Alors, je suis assez partagé sur la question, en fait, parce que, alors d'un côté, oui, il y a des chiffres qu'on ne peut pas ignorer et qui montrent bien qu'il y a un réchauffement global de la planète. Mais de l'autre côté, en fait, ça pourrait faire partir d'une période de la Terre. Donc, on a eu plusieurs choses, on a eu l'ère glaciaire, etc. Donc, en fait, ça pourrait être quelque chose de tout à fait naturel. Bien, bon, quand même, je suis pas non plus aveugle. Je pense bien que l'humain influence et accélère, on va dire, ce réchauffement climatique. Donc, d'un côté, oui, je pense qu'il existe, mais je pense aussi que c'est peut-être quelque chose de naturel et qu'on est juste un facteur qui fait qu'il s'accélère.
Quelle manifestation faites-vous pour lutter contre le réchauffement climatique?
Je sais que là, il y a un réchauffement climatique, mais je sais que personnellement, je fais pas grand-chose à part peut-être trier mes ordures dans la poubelle noire et la poubelle jaune. Je sais qu'il faudrait que je fasse plus, mais je pense que c'est surtout les grandes entreprises et les grandes usines qui, elles, polluent, et c'est à cause d'elles qu'il y a du réchauffement climatique. Donc je pense que ce serait vraiment elles les premières qui devraient faire quelque chose et que l'État impose des règles. Enfin, là, il y a la COP21, du coup, on verra bien si ça a débouché à un résultat, donc on verra.
Avez-vous peur?
Effectivement, oui, j'ai peur. Par exemple, il y a des populations qui vont devoir migrer à cause du réchauffement climatique. Et aussi, il y a la montée des eaux et tout. Et il y a les saisons qui se décalent. Par exemple, le 23 novembre, il a neigé. C'est pas normal. Les saisons se décalent de plus en plus. On ne sait pas quand l'hiver commence, quand l'hiver s'arrête, quand l'été commence, quand l'été s'arrête. C'est assez choquant.
Quel avis avez-vous pour empêcher le réchauffement climatique?
Alors, je pense en fait ça devrait venir de deux côtés. En fait, d'un côté, donc les citoyens qui devraient peut-être s'organiser, entre guillemets, faire un effort dans ce sens-là, comme mieux trier les déchets ou peut-être favoriser les transports en commun, éviter les déplacements inutiles en voiture ou des choses dans le genre. Mais de l'autre côté, je pense que la part la plus importante, comme l'a dit Mathéos, elle revient aux entreprises en fait, car c'est donc les grandes firmes transnationales qui ont un impact considérable, on va dire, sur la planète. Qui peuvent entre guillemets vraiment changer les choses de par leur choix, car c'est eux qui entre guillemets qui ont tous les outils nécessaires pour le faire. Et donc voilà, en fait, ce serait peut-être justement à l'État de réguler à partir d'institutions les entreprises qui polluent énormément la planète.
Ces jeunes sont donc conscients que le réchauffement climatique est une réalité en Aquitaine. Ils espèrent que la COP21 trouvera la solution pour lutter contre ce phénomène.
Le réchauffement climatique a donc des conséquences comme la montée des eaux. Laure et Pauline, c'est à vous.
La montée des eaux en Aquitaine est-elle une réalité?
Sud-Ouest a titré la semaine dernière « Les premiers réfugiés climatiques périgourdins sont de Soulac ». L'immeuble de Signal, menacé d'être englouti par l'océan Atlantique, a été vidé de ses habitants et interdit d'accès par l'État. À 200 km de la mer, quand il a été bâti dans les années 1970, il est désormais à une douzaine de mètres de la crête de dune. Si les flots se déchaînent encore, ce bâtiment amianté qui se trouve au bord de la falaise tombera dans l'océan. Soulac-sur-Mer, par sa nature de côte sableuse, est l'endroit où le recul des côtes se fait le plus sentir. Elle se déplace de 8 mètres par an. C'est 10 fois plus qu'ailleurs sur le littoral français. Certaines rues et habitations ont complètement disparu depuis la fin du 19e siècle.
La dune d'Amélie à Soulac-sur-Mer s'étendait sur 311 mètres de large en 1950 contre 208 en 1998. La mairie tente d'enrayer ce phénomène en installant des remparts de grosses pierres qui ralentissent la puissance des vagues. Mais la montée des eaux est inévitable. En effet, depuis 1890, la mer a enlevé 1 million de mètres carrés de sable, soit 50 000 camions de 40 tonnes. Les prévisions pour 50 ans. On prévoit la disparition de 350 mètres de dunes. Une digue existait devant le camping phare de la côte. Elle a cependant disparu après une série de tempêtes. Le stade, les bungalows et le camping sont donc menacés. En seulement 6 mois, la digue a reculé de 10 mètres. C'est deux fois plus qu'en temps normal. Une véritable falaise de sable s'est créée. Mais comment explique-t-on ce phénomène ?
Eh bien écoutez, on peut expliquer ce phénomène par l'élévation de la température atmosphérique, particulièrement au pôle nord et sud, par la fonte des glaces et par l'élévation du niveau de la mer dont la température ne cesse d'augmenter. L'acidification et la pollution des océans peuvent aussi expliquer ce phénomène.
Deuxième conséquence, les risques naturels avec Gaëlle, Margot et Mathilde.
Sécheresse, inondation, glissement de terrain, avalanche. Tous ces risques concernent la France, mais que devient l'Aquitaine dans tout ça ? Quels sont nos risques ? Quelles sont les conséquences et les solutions à ces événements ? L'Aquitaine a subi des catastrophes naturelles importantes depuis 1999. Par exemple, la tempête Martin de décembre 1999 qui a causé beaucoup de dégâts dans notre région. Aujourd'hui, les risques naturels d'Aquitaine représentent 25% des risques naturels de France. Alors qu'en 82, ce n'était seulement que 6% de la France. Certaines zones sont plus touchées que d'autres. Les littoraux par l'élèvement de la mer, les landes par les feux de forêt et les Pyrénées par les avalanches. Ce n'est pas sans conséquence. Les différentes catastrophes naturelles détruisent des villages, causent des morts et de nombreux blessés. Et cela crée même des traumatismes pour les Aquitains. Par exemple, la tempête Klaus de 2009 a causé 12 morts. À tout problème, il y a une solution. Raser les habitations près des littoraux, vider les villages qui sont dans les couloirs d'avalanche. Ces solutions ne sont pas envisageables et se heurtent aux habitants qui ne sont pas forcément d'accord. La prévention des risques est un atout important de nos jours. Cela permet de se préparer aux risques et de se protéger.
Face à ces problèmes apparaissent des réfugiés climatiques.
Cécile, Clara et Lara nous l'expliquent.
Début août 2014, la famille Luamana, originaire d'un archipel polynésien, s'est vue accorder le droit de résidence en Nouvelle-Zélande. Le motif, la montée des eaux. C'est la première fois qu'un État reconnaît un statut de réfugié climatique. En 2050, on prévoit déjà 250 millions de réfugiés climatiques dans le monde. L'Asie étant la plus touchée avec 81% des réfugiés climatiques. L'Europe les moins avec 0,3% des réfugiés climatiques dans le monde.
Et en France, qu'en est-il de l'Aquitaine ? La résidence Le Signal à Soulac se trouvait à plus de 200 mètres de l'océan lors de sa construction en 1967. Actuellement, seulement une vingtaine de mètres les séparent. En 2014, la mairie a publié un arrêté municipal contraignant les habitants à l'expulsion. Ce sont désormais des réfugiés climatiques. Parmi les 78 propriétaires expulsés, l'un d'eux s'exprime. Jean-Baptiste Marcy déclare
« La dune s'était arrachée. Nous sommes tout de suite inquiétés. La mer n'était plus qu'à une dizaine de mètres. » Son témoignage contribue à une prise de conscience de la population. Cela n'arrive pas qu'aux autres. Aujourd'hui, le réchauffement climatique nous impacte tous.
Les montagnes s'enneigent-elles ? La réponse tout de suite avec
Loïc.
Tom.
Loïc et Tom.
Pyrénées, il y a eu 5,40 m de neige cumulée pour l'année 2015. Cette station peut se prévaloir de la station la plus enneigée du monde. Pour satisfaire les vacanciers, les équipes de la station ont été obligées de travailler jour et nuit pour déneiger afin d'offrir des conditions d'accueil normales. Grâce à la montée de l'enneigement durant l'année 2015, il y a eu un afflux important de touristes qui, sur le court terme, a beaucoup influé sur le choix du modèle économique dans les Pyrénées. En effet, grâce à cette recette importante causée par la fréquentation des stations de ski, les Pyrénées ne pensent pas à une reconversion dans leur domaine économique et touristique. Or, sur le long terme, le réchauffement climatique devient de plus en plus important.
Les massifs montagneux, comme les pôles, sont particulièrement sensibles au changement climatique. Dans les Pyrénées, l'enneigement moyen a considérablement diminué entre 1971 et 2015. Les stations sont vouées à l'échec dans les 15 prochaines années. Il faut donc anticiper. Plus une station de ski se reconvertit tôt, plus elle sera attractive. Ainsi, les stations ayant prévu ce changement climato-économique pourront prétendre à un avenir fructueux.
Ces problèmes mettent-ils en danger les forêts aquitaines ?
C'est la question que se sont posées Maria et Abella, c'est à elles.
Tout d'abord, la forêt aquitaine se distingue en trois massifs différents. Celui des Landes, qui est le plus important, 4000 hectares. Alors, quels sont les deux autres ensembles forestiers ? Les deux autres massifs sont moins importants. Ce sont le massif périgourdin et le massif pyrénéen.
Et qu'est-ce qui fait que la forêt des Landes est la plus importante ?
C'est la plus importante car c'est la première forêt artificielle en Europe. Il y a principalement des pins maritimes destinés à faire des planches, des meubles ou encore des palettes.
Quelle est sa superficie? Combien d'hectares comporte-t-elle?
Cet ensemble de forêts représente 1,8 million d'hectares. Cela fait partie des 11% de la forêt française. Dans ces forêts, on plante, on coupe en permanence de nouvelles essences. C'est donc une forêt productive à 99%.
Je ne pensais pas qu'elle était autant productive.
Si, car elle emploie beaucoup et rapporte énormément d'argent. Cherchons à comprendre si les forêts d'Aquitaine sont en danger.
Il faut croire que le réchauffement climatique aura beaucoup d'impact sur les forêts d'Aquitaine.
Et quels sont-ils?
Ce phénomène a entraîné la disparition de certaines espèces végétales ou essences, par exemple le peuplier.
Il y a très peu de peupliers dans la forêt, mais je pense que les pins sont les plus touchés.
Tu as tout à fait raison, les pins s'adaptent moins bien à l'évolution du climat qui devient méditerranéen. Malheureusement, de nouvelles maladies se sont développées comme Xylella, c'est une maladie qui tue les végétaux.
Les tempêtes ne sont-elles pas trop dangereuses?
Bien sûr que si. Depuis 1999, les tempêtes se répètent fréquemment, ce qui entraîne des ravages sur la totalité des espèces.
Parlons un peu d'économie. Combien rapporte la vente du bois?
Oui, ce sujet est important. Le chiffre d'affaires annuel de la sylviculture est de 2,6 milliards d'euros.
C'est énorme.
C'est plutôt normal. 28 000 salariés qui travaillent dans les bureaux ou dans le laboratoire à ciel ouvert.
Si j'ai bien compris, la forêt d'Aquitaine est en danger si le réchauffement climatique s'accentue, car les tempêtes seraient quasi fréquentes et les maladies aussi. Alors, quel est l'avenir de la forêt en Aquitaine?
Hélas, au jour d'aujourd'hui, on s'inquiète car aucune véritable mesure n'a encore été trouvée pour lutter contre le réchauffement climatique. Au final, est-ce que tout cela a des conséquences sur le tourisme?
Marion et Zoé au micro.
Donc, le réchauffement climatique, est-ce une bonne nouvelle pour le tourisme? Le réchauffement climatique en Aquitaine semble être une mauvaise nouvelle pour le tourisme. En effet, avec son littoral atlantique et ses stations de ski dans les Pyrénées, l'activité touristique représente le moteur économique de la région.
Par exemple, dans les Pyrénées, lors de la saison 2009-2010, le chiffre d'affaires a diminué de 36% car à cause du manque de neige, les touristes ont tous annulé leur séjour. D'ici la fin du XXe siècle, à 1500 mètres d'altitude, la hauteur des neiges ne sera plus que d'une vingtaine de centimètres dans les Pyrénées, ce qui est désastreux pour les skieurs. On cherche donc des moyens techniques pour créer de la neige, mais c'est très coûteux et vraiment nocif pour l'environnement. Le problème vient donc de l'activité de l'homme.
D'accord. Et est-ce que tu sais si tu skis sur de la vraie neige ou sur de la neige artificielle?
Oui, j'ai remarqué que les dernières années où j'y suis allée, c'était souvent les canons à neige qui fonctionnaient. Donc ça veut dire que c'est de la neige artificielle parce qu'il n'y avait pas assez de neige donc, pour skier. Donc du coup, ils envoyaient de la neige.
Et est-ce que toi, ça t'importe que ce soit de la fausse neige plutôt que de la vraie? Est-ce que ça te fait un changement?
Au niveau de la qualité de la neige, non, mais je pense que ça impacte sur l'environnement, donc c'est pas très bon pour la planète, quoi. Déjà que il y a beaucoup de problèmes, je pense que c'est pas la bonne solution.
Ah, l'Aquitaine et ses produits locaux, si bons, et pourtant, ne serait-il pas amené à disparaître
avec à la fin du
réchauffement climatique?
La réponse tout de suite avec Paul, Arnaud et Antoine.
Au XIXe siècle, on assiste à une véritable explosion du nombre de tonnes de truffes produites. À cette époque, on atteignait environ 1500 tonnes par an. Depuis 1981, en France, on ne produit plus que 250 tonnes. Pour les cèpes, c'est exactement la même chose. On peut alors se demander si nous avons affaire à une disparition des truffes et des cèpes en Aquitaine.
Samedi, sur le marché aux truffes de Périgueux, la récolte n'était pas fameuse. Christian, trufficulteur, nous parle de la vente de ses truffes sur le déclin chaque année.
Alors oui, la qualité est au rendez-vous, mais malheureusement, pas la quantité. Ce n'est pas une mauvaise nouvelle, mais on pourrait croire qu'elles vont complètement disparaître. Alors, pour lutter contre la disparition de la truffe, les chercheurs de l'INRA, I-N-R-A, l'étudient depuis presque 50 ans.
Et M. Gallet, professeur de STL du lycée, nous parle du projet qu'il mène avec sa classe de STL. Donc bonjour M. Gallet, vous êtes professeur de première STL et aussi trufficulteur. Donc, pour vous, le réchauffement climatique impacte-t-il la truffe aujourd'hui?
Alors, il est difficile de le dire, mais effectivement, les étés qui sont très très chauds, comme on l'en a depuis ces dernières années, entraînent des mortalités sur les truffettes, qui fait que la production n'est pas au niveau où on pourrait l'attendre actuellement. Voilà.
Très bien. Et donc, pensez-vous qu'à l'avenir, ce phénomène va-t-il s'aggraver?
Oh, ben sûrement, puisque la planète se réchauffe, je vois pas pourquoi nos climats ne se réchaufferaient pas. Et que la truffe pousse de plus en plus haut dans nos latitudes.
Des projets sont-ils mis en œuvre aujourd'hui pour adapter la truffe au réchauffement climatique?
Non, c'est impossible.
D'accord. Et vous qui êtes trufficulteur, votre métier, pensez-vous qu'il a un avenir ?
Alors, le métier de trufficulteur, pour moi, c'est pas un métier, c'est une passion déjà. J'y ai mis un doigt, j'y ai laissé le bras, et je vais peut-être y laisser la jambe bientôt. Donc, voilà, la truffe, pour des gens comme moi, c'est une passion. Pour d'autres, c'est une réelle, dans le milieu de la trufficulture, ce sont de réelles productions, et ces gens-là comptent sur la production pour faire vivre leurs exploitations. Donc, pour eux, effectivement, c'est un métier.
Très bien, merci beaucoup, Monsieur Galli.
Mais bonne chance.
Avec tous ces problèmes, on peut se demander si la région est durable. Amy et Alexis sont là pour nous en parler.
L'Aquitaine, région connue pour ses plages mais aussi pour son important passage de poids lourds. Elle est donc une des régions les plus concernées par le réchauffement climatique. La région met en place de nombreux projets pour une meilleure mobilité durable. Mais sont-ils efficaces ? Premier projet, l'autoroute A65, une autoroute verte préservant la vie de la faune et la flore. Ensuite, le projet Objectif Engagement Objectif CO2 avec 24 entreprises représentant 3000 poids lourds s'engage dans la réduction de 25 000 tonnes de CO2.
Au niveau local, l'Aquitaine agit aussi. Par exemple, avec la mise en place de petits projets comme le Pédibus, trajet des enfants pour se rendre à l'école à pied. Cela permet de contribuer à la réduction de l'impact environnemental à petite échelle. Cependant, la région favorise parfois la rentabilité économique à celle écologique. Par exemple, la mise en place de la LGV Bordeaux-Toulouse, qui coûte 8,3 milliards d'euros, avec un impact destructeur sur l'environnement, alors que l'Aquitaine refuse de mettre 375 millions d'euros dans l'autoroute ferroviaire atlantique, qui réduirait de 85 000 les poids lourds circulant en Aquitaine par an. Un refus motivé par une mauvaise rentabilité économique.
Après les truffes, n'oublions pas le vin de Bordeaux. Un reportage de Margot, Félicien et Eva.
Le vin de Bordeaux court à sa perte. En effet, le réchauffement climatique est en perpétuelle évolution. Dans le monde du vin, en particulier, certains s'alarment dans la montée régulière des degrés ou la sécheresse qui menace l'équilibre vital des vignes.
Une étude a même démontré que d'ici 2050, une culture du vin dans la région bordeaux serait très compliqué. Le prix d'une bouteille de luxe peut atteindre les 7000 euros. Mais avec la future disparition des vignes, ces bouteilles augmenteraient de plus de la moitié du prix d'aujourd'hui. Mais combien de...
Un problème technique est survenu.
La région fait donc des efforts.
Mais est-ce suffisant ? C'est le débat que va mener notre équipe.
Le réchauffement climatique est au cœur des débats de la COP21, mais en Aquitaine, sommes-nous nous aussi menacés ? Notre littoral, qui s'étend sur 240 km, est particulièrement vulnérable, car il est majoritairement sableux, donc résiste moins à l'érosion. Il est soumis aux houles et aux vents dominants de l'ouest. Concrètement, on observe aujourd'hui la submersion de certains terrains comme à Soulac-sur-Mer. Dans le même temps, la nature de la marée évolue. La fréquence et la force des vagues est plus importante. Les côtes rocheuses plus résistantes reculent quand même d'environ 30 cm par an. Des spécialistes comme Hervé Le Treut, membre du GIEC, prévoient que d'ici 2100, la température moyenne dans le monde et en Aquitaine aura augmenté de 2 à 5 degrés. En parallèle, l'agriculture est aussi touchée par le réchauffement climatique, puisque les ressources en eau sont de plus en plus difficiles à gérer, d'autant plus que l'Aquitaine puise déjà 60% de ses prélèvements dans les eaux souterraines. Les cultures gourmandes comme le maïs deviendront donc des cultures à risque, le vin sera plus sucré et sa composition modifiée. Donc pour débattre sur ce sujet, nous avons Marine Audibert, une représentante du Surfrider.
Bonjour.
Laurine Chinours, écologiste.
Bonjour.
Laura Dazinière, représentante du Conseil régional.
Bonjour.
Et Jason Droncin, chef d'entreprise.
Bonjour.
Donc je vais être un peu provocatrice, mais Jason, vos entreprises ne sont-elles pas une des principales raisons du réchauffement climatique ?
Alors aujourd'hui, les entreprises essayent de moins en moins polluer. Comme par exemple en Aquitaine, Europlasme, qui produit de l'électricité à base de déchets.
Laura, faut-il vraiment détruire des bâtiments ou habitations qui se situent au bord de la mer, comme le signal par exemple ?
C'est une question qui porte à réflexion, puisque le signal était à 200 mètres de la mer, et maintenant il n'est plus qu'à à 20 mètres, il me semble. Donc, il vaut mieux le démolir parce que sinon, il va complètement être englouti par la mer. Donc, je pense que celui-ci va être démoli.
Marine, une réaction ?
Je ne sais pas si la destruction de cet immeuble est utile parce qu'encore...
Bien sûr qu'elle est utile.
Mais, oui, il est utile. Sinon, comment allons-nous faire ? Il va être complètement englouti par la mer.
Il va être englouti par la mer, mais lorsque vous allez le détruire, vous allez encore endommager la pollution des océans et des mers.
Mais justement, nous avons vu qu'il y a 8 millions de déchets dans l'océan de nos jours. Donc, qu'est-ce que vous proposez pour réduire ces déchets et mieux protéger vos océans ?
Pour ma part, la pollution des océans est en partie due au transport maritime des entreprises, car il y a, beaucoup de dégazage, qui est un déversement intentionnel des cuves comportant des hydrocarbures issus de la pollution des navires. Et il y a aussi la pollution domestique qui est produit par l'équipage des bateaux et c'est donc rejeté en mer.
Une réaction ? Laurine ?
Alors, bien sûr, j'ai plusieurs réactions. Démolir le signal, c'est une chose évidente parce qu'on n'imagine pas tout ce qui peut être polluant à l'intérieur. Mais pourquoi l'avoir construit ? Parce qu'on savait très bien que la mer allait monter. Je comprends pas, en fait, le but de la construction d'immeubles, d'habitations, à 200 mètres d'une plage.
Mais au début, on ne savait pas que la mer allait augmenter aussi vite. Enfin, c'est pour ça qu'il a été construit. Puis la plupart des gens aiment la mer, donc
oui.
On l'a construit pour
qu'il soit près. Mais alors, de celle-ci. Vous dites, nous ne savions pas qu'elle allait monter aussi vite. Donc vous saviez qu'elle allait monter. Donc un jour ou l'autre, il aurait fallu le détruire, ce bâtiment.
Oui, mais on aurait sans doute utilisé d'autres moyens. Enfin,
d'autres moyens pour ?
Mais pour le, je sais pas, pour le détruire.
Donc l'intérêt de le construire ?
Bon, on va passer à autre chose. Laurine, faut-il vraiment...
Excusez-moi, puis-je avoir quelque chose à dire ?
Bah, allez-y.
Alors, tout à l'heure, vous parliez de déchets dans la mer. Nous sommes d'accord avec vous, les entreprises polluent. Mais donnez-nous une solution pour y remédier à cela.
Vous pourrez faire, lorsque vous transportez vos livraisons en mer, vous pourriez faire, si c'est la pollution domestique, c'est vraiment quelque chose qu'on peut éviter. Parce que, je répète, c'est le déversement de produits ménagers dans les mers et océans. Donc c'est quelque chose que vous êtes en mesure d'éviter, je pense.
Oui, mais si vous y réfléchissez, c'est à faute à qui initialement ? Car, réfléchissons, les entreprises produisent plus, puisque les entreprises subviennent aux besoins des ménages. Donc, ils sont obligés de produire plus. Donc, pour moi, c'est à cause de la population que nous déversons les déchets dans la mer.
C'est sûrement aussi à cause de la population, mais je pense que vous avez quand même un rôle majeur parce que vous avez quand même les moyens, vous avez plus de moyens d'éviter cela, je pense, comparé à la population.
Mais après, c'est facile de rejeter la faute sur les ménages et tout ça, parce que les ménages consomment, mais la pollution provient des usines, de fabrication.
Oui, nous sommes d'accord. Mais nous sommes d'accord avec vous sur les dégâts. Mais proposez-nous des solutions. Vous regardez à chaque fois les conséquences, mais vous ne proposez même pas de solutions.
Ah, mais nous avons des solutions.
Proposez.
En Aquitaine, allez-y. On a proposé une taxe carbone où alors, 50% des Aquitains ont répondu oui.
Attendez, qui va payer la taxe carbone ?
Mais tous ceux qui polluent. Les Aquitains ont voté, mais 50% des Aquitains sont d'accord.
Donc, les entreprises vont payer la taxe carbone.
Bien sûr.
Donc,
c'est les principaux.
Attendez, j'ai pas terminé. Ce qui va augmenter la délocalisation des entreprises vers d'autres pays. Nous sommes d'accord.
Eh bien, allons polluer les autres pays, tous ensemble, tous en cœur.
Donc, vous êtes d'accord que la
Ah, mais je ne suis pas d'accord avec vous.
Mais tant mieux. Puisque la population. Si la population n'est pas d'accord avec cela.
La moitié.
La moitié. Donc, la taxe carbone va impacter sur l'état d'esprit de la population. Car si vous mettez une taxe carbone, ils ont déjà assez d'impôts à payer, nous sommes d'accord. Donc, la population va exprimer leur mécontentement dans les rues. Donc, l'État va leur dire qu'ils ne sont pas d'accord.
Donc, vous me parlez économique ? Oui.
Oui.
Donc, en fait, vous préférez voir l'avenir économique que plutôt l'avenir de vos enfants dans ce monde qui est en train de se détruire à petit feu.
La France, si on parle économiquement...
Oui, c'est bien ce que je vois. France. Vous ne parlez qu'économique. Vous parlez... En fait, oui. Vous vous fichez complètement de... Mais
attendez,
vos enfants ne connaîtront même pas la mère vu qu'elle est en train de...
Laissez parler Laurine, s'il vous plaît.
Merci. Vous parlez économique parce qu'on dirait que vous... Enfin, pas seulement vous. Malheureusement, ça tombe sur vous. C'est bien dommage, même. Mais l'économie, c'est pas l'avenir. Enfin, malheureusement, si, mais... Vous ne pensez pas à vos enfants, mais mettez-vous à leur place. Certaines choses auront disparu à cause du réchauffement climatique et vous ne voulez faire aucun effort.
Marine,
De plus, vous parlez économie, mais maintenant on est obligé, on a vu dans les reportages précédents, d'utiliser par exemple de la neige artificielle. C'est quelque chose de très coûteux, donc économiquement parlant, je ne pense pas que ce soit une très bonne idée.
Allez en Sibérie si vous voulez faire du ski, il y en a de la neige là-bas.
Oui, mais cela coûte cher, nous sommes d'accord. Aujourd'hui, bah, nous sommes en crise.
Hein, oh, la crise, oh, bah, excusez-moi, le monde se détruit aussi. Hein.
Attendez, j'ai pas terminé, merci. Faut-il polluer ou licencier ? Nous sommes d'accord.
Le rapport ?
Non, mais il y a un rapport. Excusez-moi, vous nous dites que la pollution impacte sur la population, sur la santé. Donc la population...
Vous vous contredisez, monsieur ?
Non.
Si, bien sûr que si. Vous avouez que la pollution a un impact sur la santé. Oui, mais j'ai une liste, même, si vous voulez, les effets néfastes.
Nous sommes d'accord avec vous.
Vous voulez que je vous la dise ? Mais est-ce que vous allez me donner au moins des solutions ?
Mais exactement.
Oui ?
Par exemple, regardez, dans d'autres pays, il n'y a pas ces contraintes qui sont la pollution, la qualité de la production. En France, l'État impose des normes comme je l'ai dit tout à l'heure, la pollution et la qualité de la production. Donc, pour moi, il faudrait un monde plus égalitaire au niveau des normes pour que les entreprises essayent, partout dans le monde, essayent de moins polluer pour éviter la pollution dans le monde.
Donc, Laurine, faut-il un objectif mondial de long terme à réduction de zéro des émissions de gaz à effet de serre ?
Alors, moi, personnellement, je ne peux pas forcément répondre à cette question, mais nous avons fait un sondage en Aquitaine et nous avons des chiffres que je vais vous lire. D'où 44,8% des Aquitains ont répondu oui, mais seulement avec des contraintes juridiques, et 3,4% ont répondu non. Donc, comment vous réagissez, madame ?
Laura ?
En effet, il y a des gaz à effet de serre et la région met tout en œuvre pour essayer de les réduire. Par exemple, par de nouveaux usages comme les transports publics ou également en subventionnant les projets d'énergie renouvelable.
Mais le changement climatique n'a provoqué aussi des conséquences sur les forêts.
Oui, bah oui, les forêts, parlons-en des forêts. On a remarqué une forte disparition des forêts. Nous savons tous l'effet des forêts sur l'atmosphère. Donc, si les forêts disparaissent, on a une augmentation du gaz carbonique et une diminution de l'oxygène.
Attendez.
Non, mais diminue,
cela, c'est pour subvenir aux besoins de la population. Donc, si nous produisions moins, la population va crier que...
oui, elle va crier, mais elle va vivre.
Oui, mais les entreprises... Laissez-moi terminer. Les entreprises sont obligées de produire plus pour subvenir aux besoins de la population. Nous sommes d'accord.
Vous avez n'avez besoin que ça de quoi à dire. Attendez. Parce que depuis le début du débat, vous dites toujours il faut produire oui. plus, parce que la population va crier. C'est tout. Vous avez que ça à dire.
Laissez Jason parler, s'il vous plaît.
Mais regardez, les machines écologiques coûtent cher. Donc, nous sommes obligés de licencier.
Bah, à la base, on parlait des forêts.
Oui, mais pour ça... Pour cela, nous sommes obligés.
On va les repenter, c'est ça ?
Ben oui, nous pouvons faire cela. demander à l'État.
Donc alors, l'État, on va détruire des forêts pour les replanter.
C'est pas la mission aux entreprises de replanter les arbres dans les forêts. C'est pas notre mission.
Mais c'est pas votre mission. Mais alors, votre mission, ça va être quoi?
Mais
à part produire plus,
essayer de polluer moins et de subvenir en même temps aux besoins de la population.
Mais ce réchauffement climatique a aussi des conséquences néfastes sur les hommes.
Mais bien sûr. Bien sûr. J'ai une liste, si vous voulez.
Ben allez-y.
Mais je vous la fais. Alors, les conséquences néfastes sur la santé. Catastrophes naturelles, exposition aux ultraviolets, pollution atmosphérique, pollution de l'eau potable, développement des allergies et prolifération de tout un tas de nuisibles. Qui peut me répondre?
Donc, cela, vous nous dites que...
Excusez-moi, mais c'est rien contre vous, mais vous êtes le seul à vous défendre. Mais vous êtes le seul à vous défendre. Vous avez une acolyte avec vous, mais non, elle ne répond pas, elle ne réagit pas.
Et je tiens à ajouter quelque chose, nous avons aujourd'hui des réfugiés climatiques. Donc ça a un impact sur la santé de la population, mais ça a aussi un impact sur leur mode de vie.
Laura, ça c'est sûr, mais le domaine économique et le domaine écologique, c'est deux choses totalement différentes, mais malheureusement, l'une va impacter sur l'autre. Donc on ne peut pas... On essaie de faire le maximum pour éviter de polluer, mais en même temps, si on arrête de polluer, on arrête de produire. Enfin, c'est contradictoire tout ça.
Je suis d'accord avec elle.
Oui, mais les ressources, environnementales, ne sont pas durables face à votre production. On peut parler de la pêche. Il y a un taux de surpêche et ça n'est pas durable face au stock de poissons dans la mer. Il y a de plus en plus d'espèces de poissons qui disparaissent à cause de la surpêche.
En effet, oui. Mais le Conseil régional essaie de mettre en œuvre, essaie de développer des énergies renouvelables. Donc c'est une priorité pour la région. Et d'ailleurs, améliorer l'empreinte environnementale des agents du Conseil régional, c'est également... ce qu'ils essaient de faire.
Oui, mais vous êtes au courant quand même qu'il y a à peu près 2 millions d'espèces qui risquent de disparaître à cause du réchauffement climatique.
J'en suis consciente, mais...
Attendez, que feriez-vous à notre place?
Mais on ferait des efforts, au lieu de penser qu'à l'économie...
Attendez, lesquels?
On en a déjà parlé, taxe carbone.
Oui,
mais l'Aquitaine ne cesse de...
On parle des pêches, là. On parle des espèces. Que feriez-vous à notre place?
Mais on peut toujours... Allez-y, Marine, excusez-moi.
Déjà, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, il y a des choses que vous pouvez éviter, comme les dégazages et la pollution domestique. C'est complètement à votre portée.
Mais du coup, est-ce que chacun d'entre vous a une solution, enfin propose des solutions pour...
Moi, j'ai déjà dit ma solution.
Et c'est laquelle?
Je la redis. Alors, moi, je souhaite...
Mais pour réduire le réchauffement climatique, pas pour favoriser vos entreprises.
Alors... tout d'abord, il faudrait moins polluer.
C'est ça le problème, il n'a pas de solution.
Et mais vous, qu'est-ce que vous proposez?
Vous avez une solution?
Mais j'ai déjà proposé, je vais devoir vous le dire combien de fois, qu'on a
carbone.
Déjà proposé, oui, une taxe carbone.
Regardez,
mais c'est
la
déjà
taxe
un
carbone
grand mais oui, mais
va coûter cher à la population et aux entreprises, ce qui va favoriser la délocalisation des entreprises. Vous êtes d'accord?
Mais oui, mais on n'a qu'à en enlever des entreprises.
Quelle entreprise?
Mais celle qui pollue. Celles qui ne peuvent pas assumer
mais
le fait qu'elles sont en train de détruire la planète.
Aux besoins de la population.
Eh bien, la population va devoir avoir des restrictions, c'est tout.
Donc, il va falloir trouver un accord entre le problème des entreprises qui polluent et le réchauffement climatique. Qu'est-ce qui...
Après, moi, je peux vous dire que la région met en œuvre et poursuit ses efforts pour favoriser une agriculture durable en essayant de faire le moins d'impact possible sur l'environnement. Et de plus, elle essaie de préserver au maximum et de valoriser les espaces naturels, en particulier les zones littorales, en prenant en compte les risques naturels.
Mais soyons honnêtes, il y a également des conséquences positives de ce réchauffement climatique. Regardez, le tourisme a augmenté sur les littoraux en Aquitaine.
En effet, le tourisme a fortement augmenté, puisque la mer est plus chaude. Mais bien sûr, cela va impacter sur les espèces.
Oui, parce que si la mer est plus chaude, c'est quand même 100 000 espèces de maritimes qui disparaissent chaque année. Et nous avons des poissons qui suffoquent au fond de la mer.
Ça vous dérange pas, vous, que les poissons se fassent bouillir dans la mer?
Sachant que 100 000 espèces disparaissent, au niveau de la pêche, ça va avoir un impact aussi. Puisque vous parlez économie, ça va avoir un impact aussi.
Et vous ferez quoi, vous, à notre place?
À votre place, moi, j'instaurerai des réglementations dans les entreprises, des normes avec des règles à respecter, un peu plus strictes.
Lesquelles?
Déjà, réglementer les zones nautiques, hein, avec les activités aquatiques, tout ça. Et pour tout ce qui est des entreprises qui fabriquent des moyens de transport pour la mer ou quoi que ce soit, faire des moyens plus écologiques.
Oui, mais ces moyens, ils coûtent cher, ces moyens écologiques.
Et la vie de la planète, ça vous coûte cher?
Attendez, taisez-vous, vous. ces machines écologiques, ils coûtent cher. Donc, nous sommes obligés de faire les choix entre le licenciement et la pollution. Donc, si nous achetons plus de machines écologiques, nous sommes obligés de licencier. Donc, la pollution va exprimer son mécontentement dans les rues par le biais de manifestations. Donc, le moral de la population va baisser, ce qui va impacter la production des entreprises.
Donc, Laurine, un commentaire?
Alors, quand vous dites acheter des machines écologiques va forcer le licenciement.
Oui, mais parce que ça coûte cher.
Donc, ça vous avez cher, les moyens.
Qui va les acheter?
Dites-moi. Attends, la population. Laura a peut-être quelque chose à dire?
Non, mais en effet, ça coûte cher. Mais comme je l'ai déjà dit tout à l'heure, l'écologie et l'économie, c'est deux choses différentes. Et l'une impacte sur l'autre. Donc, du coup, on essaie de faire le maximum pour essayer de réguler les deux, mais c'est très difficile.
Bon, ben, ce débat est clos. Je vais redonner la parole à mes collègues.
Ces différents reportages et débats ont donc montré que le réchauffement climatique est une réalité en Aquitaine.
C'était Chloé.
Et Lilian.
Sur Green FM.
Apprends, restons verts.